Continuer dans notre série d'études dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et je vais lire les premiers versets. Il y a 15 jours, on a lu ces premiers 8 versets. Et je vais les relire. Le passage qui nous intéresse, ce sera surtout les versets 3 et 4. Mais je vais lire à partir du premier verset. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Je relis les versets 3 et 4, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Le titre de notre étude ce matin, c'est « À qui appartient mon corps ?» Et je suis sûr que si on faisait un sondage et puis si on... On demandait aux gens, pas seulement ici, mais même dans la rue, et on dit « À qui appartient votre corps ?» Ils vont dire « Mais à moi, j'en fais ce que je veux. Je l'entretiens ou je le néglige, je le soigne, je l'abuse, je fais ce que je veux, il est à moi. » Peut-être pour les gens du monde, ils le croient, mais pour le chrétien, eh bien, il est important de se poser cette question. « À qui appartient mon corps ?» Et Dieu nous parle ici, et nous parle de sa volonté, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et dans ce contexte, il parle de posséder son corps. C'est-à-dire, la sanctification, ce n'est pas quelque chose de spirituel, quelque chose de... ça va jusque dans le corps. Je veux quand même, avant d'aller plus loin, je veux quand même répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que ici Paul s'adresse à une bonne église. Il s'adresse à une église de gens qui plaisent à Dieu. Hein. Il dit, je vous parle de comment vous devez conduire et vous plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. Ce n'est pas une question de que vous plaisez à Dieu ou pas, c'est une question de plaire à Dieu de plus en plus. Hein. Donc, l'exhortation, ce n'est pas à des chrétiens charnels. L'exhortation, c'est à des chrétiens qui sont en pleine croissance spirituelle. Et c'est à eux qu'il dit qu'ils doivent maîtriser leur corps, posséder leur corps. Il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc s'il nous l'exhorte, c'est que naturellement, ce n'est pas là. Donc c'est une chose qui s'apprend. C'est une chose que nous devons désirer. C'est une chose qui plaît à Dieu. Donc, nous devons faire le nécessaire pour posséder ce corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, la sanctification n'est pas seulement une aspiration de l'âme, hein, quelque chose auquel je rêve quand je prie, mais elle se concrétise dans les actes. Hein, ça s'exprime matériellement. Cette semaine, j'ai étudié la parole avec quelqu'un dans l'épître de Jacques, oui, Et il parlait de la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est spirituel et réservé pour des moments où on est en prière, mais c'est quelque chose pour pratique pour tous les jours. Premièrement, la sanctification n'est pas une option. C'est pas réservé pour certains chrétiens qui veulent devenir plus spirituels. C'est la volonté de Dieu pour toute l'Église. Quand il le dit à Thessaloniciens, il ne dit pas que c'est pour les anciens ou pour les plus âgés, mais c'est pour l'Église, chacun. Et une Église n'est pas plus sainte que le moins saint de ses membres. Vous n'êtes pas en meilleure santé que la partie de votre corps qui va le moins bien. Qu'est-ce que je veux dire? Je l'ai mal dit, si vous avez mal aux dents, il n'y a que la dent qui a mal. Mais finalement, c'est tout qui a mal. Je ne suis pas bien. Si c'est une infection au pied, eh bien, même si c'est que le pied, mais c'est tout le corps qui est malade. Et donc, même dans l'Église, c'est cette notion de corps, c'est pas moi tout seul, c'est... Tous nous ne sont pas meilleurs que le, je veux pas dire ça, mais le moins bon de chez nous. Donc, il est important que chacun des membres se porte bien, et c'est de notre intérêt de nous encourager mutuellement. Donc, la sanctification n'est pas une option. Et avant d'aller plus loin dans cette, pour comprendre ce que c'est que la sanctification. Et puis de la comprendre comme Dieu le comprend, c'est pas de devenir prêtre ou d'être dans le service de Dieu à plein temps. La sanctification, c'est pour chaque enfant de Dieu. Je veux faire référence à la table du Seigneur, par exemple. La table du Seigneur, bien sûr, Paul, dans l'épître aux Corinthiens, dit aux Corinthiens, il dit, c'est à chacun de s'évaluer soi-même. C'est-à-dire chacun se regarde et puis il juge lui-même s'il va prendre part ou non. Et ça, c'est tout à fait biblique, c'est correct, c'est juste, c'est une manière de montrer le respect pour la table du Seigneur. Mais d'un autre côté, il ne faut pas développer une satisfaction personnelle. Il dit, ben moi, je m'abstiens, donc moi, ça va, comme ça, je suis... Et être content de soi parce que, justement, j'exprime mon respect pour la table du Seigneur et je n'en prends pas part. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que quand Jésus a servi la table du Seigneur, il l'a servi à tous les disciples et il a dit quand même, prenez-en tous. Donc sa volonté, c'est que tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont baptisés, ceux qui sont disciples du Seigneur, la chose normale, c'est d'en prendre part. Donc s'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche de prendre part aujourd'hui, eh bien je dois le régler. Je ne dois pas rester comme cela. Il y a aussi au niveau du baptême. Parfois, certains disent, mais non, moi, je ne suis pas prêt pour le baptême parce que je ne suis pas encore... je ne suis pas prêt pour les engagements. Je ne suis pas prêt. Alors, on repousse. Et c'est bien, c'est honnête de dire, je ne suis pas prêt. Mais ce n'est pas bon de ne pas être prêt et de rester dans cet état-là. C'est beau d'être honnête, mais c'est pas bon pour sa vie spirituelle de dire... Moi, je me rappelle, il y avait un qui me disait, moi, un peu pour justifier une vie un peu... Il dit, moi, je crois, je suis enfant de Dieu, je suis croyant, mais je ne suis pas baptisé, donc je ne suis pas obligé de faire certaines choses. Et non, à partir du moment qu'on est enfant de Dieu, on mène une certaine vie. Le baptême, c'est seulement une question de déclarer, je m'engage à vivre cette vie. Mais la vie, je la vis déjà. Ce serait comme l'exemple, mais j'essaie de prendre quelque chose de parlant. C'est comme le mari qui, parce qu'il a été infidèle, eh bien, il ne couche plus avec sa femme. Et alors, et puis il est content de lui. Il a dit, moi, au moins, je la respecte, je suis honnête. Mais c'est pas une situation normale. Règle-la. Parce que ce qui est normal, c'est que tu sois avec ta femme. Hein? Et donc, les situations qui existent dans notre corps, et à partir du moment, même si je les reconnais, je les admets, je me juge, mais ce qui est formidable et ce que j'encourage, c'est qu'on règle ces situations-là afin de marcher de l'avant. Hein? C'est d'abord marcher de l'avant, se développer, régler les problèmes, régler. Tout se règle dans la vie chrétienne, tout peut se régler. Parce que la communion peut être rétablie avec Dieu, quel que soit le problème. Hein, et on prend le temps qu'il faut, mais on s'y met. Et pour se consacrer pleinement au Seigneur. La grâce de Dieu est là. Parfois, la grâce de Dieu est plus généreuse que les hommes, hein, celle des hommes. Mais bon, on a affaire avec la grâce de Dieu. Hein, et c'est pour Dieu que nous voulons vivre. Et donc, allons de l'avant. Donc la sanctification n'est pas une option, c'est une exhortation, mais fortement. Hein, c'est presque un ordre du Seigneur. Hein. Et si je sais que c'est la volonté de Dieu que non seulement je sois sauvé, mais que je vive pour lui, et alors donc je dois le désirer. Donc deuxièmement, le sens de la sanctification. Qu'est-ce que cela veut dire, la sanctification ? Eh bien, premièrement, essayons de comprendre le mot. Hein. Si je demandais à chacun de me décrire sur papier qu'est-ce que ça veut dire la sanctification, peut-être que j'aurais des mots comme consécration, j'aurais des mots comme mettre à part. Trop souvent, l'idée de consécration ou de sanctification, trop souvent chez les chrétiens, on a cette idée, c'est mettre à part, c'est-à-dire, c'est presque mettre de côté. Lui, eh bien, il n'est plus dans la voie principale. Lui, il s'est consacré à Dieu. Il est un peu à côté, sur une autre voie. Ce qui n'est pas vrai. La consécration, la sanctification, c'est pour le chrétien qui est en plein dans la voie rapide de la vie chrétienne. Hein, c'est pas pour ceux qui ont choisi de se mettre en marge, mais c'est le chrétien désobéissant, c'est le chrétien résistant, rebelle qui est en marge. Et c'est le chrétien qui a les yeux fixés sur le Seigneur et qui va de l'avant, c'est lui qui est dans la voie rapide, hein, de la vie chrétienne. C'est pas parce qu'il est peut-être minoritaire qu'il n'est pas dans la voie rapide. Hein. Dans le monde, eh bien, c'est ceux qui sont à fond dans les choses du monde qui sont dans la voie rapide. Mais dans la vie spirituelle, ce sont ceux qui ont les yeux fixés sur le Seigneur, les brebis qui sont les plus proches du berger, hein, dans le troupeau. Ça venait dans l'Ancien Testament, hein, quand ils ont, dans le désert, le tabernacle. Au début, il y avait une tente à l'extérieur du camp. Et c'était là où Moïse allait consulter Dieu. Mais Dieu a révélé à Moïse, il a dit, moi je veux que tu construises un tabernacle et que tu le mettes au milieu du camp. Parce que c'est là que tu veux être, au milieu du camp, au centre de ma vie. Tout le reste est périphérique par rapport à lui. Tout le reste c'est comme Paris dans la France. Toutes les nationales vont vers Paris. Hein? Napoléon, quand il a fait cela, ben, il a fait pour pouvoir partir de Paris rapidement n'importe où sur le territoire français. Et tout est relié, tout revient sur Paris. Bon, ça peut être, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Mais dans notre vie chrétienne, eh bien, Jésus-Christ, Dieu, est au centre. Et consacré, ça veut dire, c'est placer Jésus au centre et faire de lui le centre. Et tout rayonne à partir de lui. Et partout où je vais, je passe par lui. Là où je regarde, je passe par lui. Le sens de le mot hébraïque de consécration, c'est pas de mettre à côté, mais c'est de mettre au centre. Quand on dit dans la prière du Seigneur, hein, le Notre Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Et que ton nom soit sanctifié, c'est l'idée de que ton nom soit central, soit le nom principal, que tout soit concentré sur toi, que ton nom soit sanctifié. C'est là le problème. Le problème souvent parmi nous, c'est que son nom est écarté et il y a d'autres noms. Hein, trop souvent le nôtre même qui devient central. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. C'est où moi, je suis le premier. Et tant que et toi, si tu ne veux pas t'aligner sur moi, ben alors je crois qu'on ne peut pas vivre ensemble. Dans Éphésiens chapitre 2, il nous dit comment c'était avant. Et il décrit à l'apôtre Paul et il s'inclut lui-même. Hein. Il dit Éphésiens chapitre 2, je lis au verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Mais il dit quand même que c'était autrefois, c'est-à-dire qu'il y a un changement. Mais autrefois, voilà ce que vous étiez. Vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, même si vous n'en étiez pas conscient, mais vous étiez en train de danser sa danse. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Eux croient qu'ils font ce qu'ils veulent, ils croient qu'ils sont libres. On appelle ça, ils ont fait toute une marche pour dire nous, le droit à l'expression. Oui, mais il y a quelqu'un qui te donne les paroles. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de... qui mène la baguette. Hein. Il y a un chef d'orchestre dans ce monde. Même s'il ne le voit pas, mais il est là. Il dit, verset 3, il dit, nous tous, nous étions de leur nombre. Nous étions, mais on ne doit plus l'être. Hein? Nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est ce que ma chair voulait qui se faisait, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, et c'est là où quelque chose a changé. Avant, c'était ce que moi je voulais, ce que mon corps désirait, c'est ça qui décidait tout. Mais il a dit, mais Dieu. Et quand Dieu est intervenu, tout d'un coup, les choses ont changé. Et c'est ça la sanctification, c'est que quand il y a un moment où je place Dieu au centre, et alors tout d'un coup, change. Hein, c'est comme un célibataire, il a sa maison, et puis tout d'un coup, il se marie, et puis ouf, tout change dans la maison. Tout se déplace, tout est autrement. Et on sait qu'il y a une dame qui vit dans la maison. Eh bien, dans la vie chrétienne aussi, quand Dieu arrive, tout d'un coup, on sait que Dieu est là. Hein, et ça change la vie. Et il dit, donc, puisque dans cette sanctification, ça affecte votre vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'au verset 3, il dit, Dieu veut votre sanctification. Au chapitre 4, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, ça a une application dans le monde physique, dans le monde matériel et dans mon corps. Il est vrai, et je ne vais pas le développer là, peut-être qu'on pourra le faire un autre jour, il est vrai que dans un sens, nous sommes déjà sanctifiés. Dans le sens que Dieu, dans sa grâce, il m'a trouvé, il m'a parlé, j'ai répondu à son appel et il m'a pris. Il m'a placé dans son amour et pour son monde. Donc Dieu m'a pris et m'a placé en lui. Donc il m'a sanctifié, il m'a donné position centrale. Donc par exemple, quand je lis 1 Corinthiens chapitre 1, et je vous rappelle en passant que l'église de Corinthe était une église charnelle, et pourtant il leur dit au 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc il s'adresse à l'église de Corinthe, en lisant la suite, nous savons que c'est une église qui a de gros problèmes. Mais il dit, vous avez été sanctifiés. C'est-à-dire que déjà, vous êtes sanctifiés dans un sens que vous avez été pris, et vous avez été pris par Dieu, et vous avez été reçu une place centrale dans son attention. Hein? Donc vous êtes sanctifiés. Et par cela, vous êtes saints. C'est-à-dire, vous êtes consacrés, vous êtes mis à part. Dans l'esprit de Dieu, eh bien, vous n'êtes pas comme les autres. Ça y est, vous êtes mis à part. C'est vrai dans un sens que nous sommes tous des saints. Hein, dans ce sens-là, nous sommes des saints. Mais, il nous dit, vous êtes des saints, maintenant, vous devez être sanctifiés. Pour donner un exemple, pour illustrer un peu la chose, pensons aux enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, eh bien, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et de pour toutes les nations, et 40 ans plus tard, quand les espions arriveront à Jéricho, eh bien, Rahab leur dira, « Mais oui, nous, on a remarqué hein, que votre Dieu, il vous a pris, avec un bras puissant, il vous a fait sortir de ce pays-là. On a vu que Dieu a fait quelque chose avec vous qu'il n'a fait avec aucun autre. » Donc, dans ce sens-là, Dieu les a distingués, ils ont été consacrés, sanctifiés, c'est le peuple de Dieu. Mais dans un autre sens, pendant tout leur trajet dans le désert, pendant 40 ans, il fallait sortir l'Égypte du peuple. C'est-à-dire, en une nuit, il a sorti le peuple de l'Égypte, mais il fallait 40 ans pour sortir l'Égypte du peuple. Ils avaient les mauvaises habitudes et ils étaient là, il fallait les travailler. Et c'est un peu dans le même sens pour nous. C'est que Dieu nous sauve dans un instant. Lorsque je me tourne à lui, je dis, Jésus, je crois, Dieu, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je veux que tu me pardonnes. Je suis sauvé. Hein? Je peux dire sauvé. Je ne dis pas, je suis en voie d'être sauvé. Ou je ne dis pas que je serai sauvé. Je suis sauvé. J'ai le droit de le dire parce que c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Pas parce que je suis saint, mais parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais dans un autre sens, il y a des choses hein, à régler. Hein. Même le Seigneur travaille sur Steve depuis des années, hein, plus de 50 ans. Et puis ma femme aussi a travaillé sur moi depuis plus de 40 ans. Et c'est pas encore là. Hein. C'est pas fini. Elle s'est fait des cheveux blancs là-dessus. Mais bon, vous savez, mais on a besoin. C'est ce que j'ai. Il faut qu'il y ait un autrefois j'étais. Et maintenant, je suis, grâce à l'œuvre de Dieu. Et c'est ça la sanctification. Et je suis autre chose, pas sur n'importe quoi, mais je suis Dieu est central dans ma vie. Et que les gens qui ont affaire avec nous, eh ben, ils savent qu'il faut tenir compte. S'ils veulent faire quelque chose avec nous, ils sont obligés de tenir compte de ce que Dieu veut. Parce que moi, je ne ferai rien que Dieu ne veut pas. Hein, donc pour eux, ils disent, bon, je sais, toi, c'est pas la peine de te demander, parce que toi, Dieu, il veut pas que tu fasses ça, donc bon, c'est pas la peine que je te demande. Carrément, les gens comprennent, ils commencent à comprendre. Si Dieu le veut pas, moi, je le ferai pas. Et c'est pas la peine. Hein, tout comme moi, je savais qu'il y a des choses que je demandais pas à mon père, parce que je savais qu'il le voulait pas. C'est pas la peine de lui demander, c'est même pas la peine de lui faire des beaux yeux, puis lui faire des sourires, puis lui faire... Il y a des choses... N'importe comment, ça passe pas. Et tout le monde le savait. Et il dit, toi, c'est pas la peine qu'on t'invite à cette fête-là, ton père, il te laissera pas venir. Ben, c'est carré, voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est ma vie, c'est ma nouvelle vie. Ça c'est la sanctification. Ça veut pas dire que... Sanctification, ça veut pas dire que je reste et je prie pendant 3 heures, tous les jours. La sanctification, c'est la vie. Jésus, qui était plus sanctifié que Jésus? Et c'était un homme qui marchait les voies. Il était tout le temps dans la foule. Et il était bousculé. Et au point qu'on a même dit de lui, on dit, mais ça, c'est un buveur. puisqu'il est avec les gens qui boivent. Il était avec les gens qui boivent, mais il était pas, il n'abusait pas. Il était avec les gens de mauvaise vie, mais il n'était pas un homme de mauvaise vie. Et c'est ce que nous devons être. Jésus, c'est notre modèle. Si nous regardons les religions, ils nous disent toujours, pour les gens qui veulent se consacrer, ils sont obligés de s'isoler dans un couvent, dans un temple, dans un monastère, dans un... Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est tu te consacres à Dieu et tu marches au milieu. Et donc, et c'est ça que je trouve beau avec l'évangile. Et c'est ce qui distingue de tous les autres. Moi, je dis, la Bible, c'est fait pour marcher tous les jours. Et on vit dans ce monde... Et on peut marcher très bien. J'ai fait une fois une étude, je crois que vous pouvez la trouver sur le site de l'Église, mais dans Éphésiens chapitre 4, il y a un principe que je ne vais pas développer, juste faire référence. Éphésiens chapitre 4 et les versets 17 à 24. Je vais déjà juste... lire je vais lire à partir du verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire, il y a deux aspects, il y a deux dimensions, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où je me dépouille d'une chose, et il y a l'autre aspect où je revais autre chose. Jean... Rappelez quand Jésus a guéri l'aveugle à la sortie de Jéricho. Jésus passait, puis l'homme se met à crier. Et puis finalement, Jésus vient à lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Et ben, il dit, vois. Et l'homme voit. Il y a un petit détail que je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est que tout d'un coup, il enlève l'habit. Il enlève le vêtement et puis commence. Le vêtement du mendiant, hein, le vêtement déchiré, tout ça, pour qu'il doit... Il enlève. Maintenant, il voit. Il n'a pas besoin de ça. C'est une autre vie. Il ne ressemble plus à un mendiant. Il ressemble à un disciple de Jésus-Christ. Et il dit, et il le suit. Et c'est ça le changement dans notre vie de tous les jours. C'est qu'on se dépouille, il dit, du vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau, créé par Dieu en Jésus-Christ. Se dépouiller de l'ancien pour revêtir le nouveau. Et ça, après on ne retourne pas à l'ancien. Hein. Donc, nous avons vu que la sanctification n'est pas une option. Deuxièmement, nous avons vu, nous avons essayé de donner une idée, le sens de la sanctification. C'est pas un événement mystique, c'est quelque chose de pratique pour la vie. Et puis troisièmement, c'est l'importance du corps dans la sanctification, du corps, de notre corps physique, l'importance du corps dans la sanctification. Parce que dans l'esprit de Dieu, le corps est aussi important que l'âme. Chez les hommes, le corps, c'est là pour... C'est pour s'amuser, c'est pour se faire du plaisir, c'est pour... Mais pour Dieu, le corps est aussi important que l'âme. Dans la pratique quotidienne... Certains chrétiens se comportent comme s'ils disposaient de leur corps pour l'employer comme ils veulent. Dis-moi, moi j'ai donné à Dieu, j'ai donné mon âme, mon esprit, c'est à lui. Comme ça, quand je meurs, eh bien il prend, et puis je suis sauvé. Mais sinon, mon corps, je fais ce que je veux, je me fais plaisir. Tu dis, non, non, tu as mal compris. Moi, quand je suis mort sur la croix, je suis mort pour sauver l'homme tout entier, corps, âme et esprit. J'ai tout acheté. C'est pas comme quand on achète une boutique. Vous savez, on peut acheter une boutique, on peut acheter les murs. Mais on n'achète pas la maison. Hein, on achète juste l'usage de l'intérieur, mais on achète... Non, non, Dieu, il a dit, non, non, c'est pas moi, j'ai pas acheté les murs, moi, j'ai acheté l'autre tout entier. Hein? Je suis propriétaire du tout. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 6 à 20. 1 Corinthiens 6, je veux dire 19 à 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, il n'y a pas plus clair que ça, hein? Vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Confiez donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, tous les deux. Moi, le propriétaire, quand il m'a vendu la maison, il dit, écoutez, je vous vends la maison, mais je continue à habiter dedans, je fais ce que je veux, c'est... Voilà. La maison est à vous, mais moi, je reste... Non, non, non. Il a dit, non, non. Monsieur, moi, j'ai acheté la maison, je rentre dedans, je fais ce que je veux. Je me rappelle, il y avait un pasteur aux États-Unis qui a raconté l'histoire que son père habitait dans une région près des Amish. Les Amish... C'est des gens qui veulent, qui préfèrent la vie très simple. Donc il n'y a pas de rideau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de confort, rien du tout. Tout est très ordinaire, très simple, parce que tout ce qui est superflu est mondain. Alors il disait que son père avait une maison qu'il avait rendue confortable, salle de bain et tout, vraiment bien, à l'américaine. Hein? Et puis des Amish l'ont acheté. Il a dit, et je suis passé la semaine d'après et je trouve la salle de bain comme ça, jetée, tout cassée. Ils ont enlevé toutes les belles choses que j'avais mises dedans. C'était tout jeté sur un tas de... Et ça lui a fait mal au cœur. Après, il s'est dit, mais bon, ils ont acheté, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu nous a acheté tout entier. Je ne peux pas lui dire, mais surtout, touche pas ça. Non, non. Il dit, moi, j'ai acheté, c'est à moi. Je fais ce que je veux, je jette ce que je veux jeter et je garde ce que je veux garder. Il dit, n'oubliez pas, vous avez été racheté à un grand prix. Et c'est vrai que le prix a été élevé, hein, c'est son sang. Et il dit, vous ne appartenez plus à vous-même. Il dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voilà, il nous a sanctifié lui-même tout entier. Et pour qu'on le comprenne bien, il a dit l'esprit, l'âme et le corps. C'est pas une question de Seigneur, voilà, moi je t'aime bien, je suis content que tu m'as sauvé, et le jour où je meurs, mon âme va vers toi, et à ce moment-là, je te donne le corps aussi. Tu en fais ce que tu veux. Non, non, il a dit non, non, c'est maintenant. Maintenant que tu es vivant, c'est déjà à moi. Je suis pas héritier de ton corps quand tu meurs. Dieu n'est pas notre héritier. Dieu est notre... Nous sommes à lui maintenant. Il nous a rachetés. Notre corps lui appartient déjà. Et il donne de l'importance. La preuve, c'est que le jour où je meurs, mon âme va vers lui. Mais un jour, il reviendra jusque-là chercher le corps. Et peu importe dans quel état le corps se trouve. Hein, pour certains, c'est devenu de la poussière. Pour d'autres, c'est de la cendre. Pour d'autres, c'est devenu un repas de requin. Mais c'est pareil. Il viendra chercher le corps. Ça, c'est son problème. Il l'a acheté, il a dit, je l'ai acheté, je le veux. Quand Paul s'adresse à ces chrétiens de Thessalonique, il s'adresse à des chrétiens qui ont traversé une rude épreuve. Hein, parce que c'était tellement rude, au point qu'il s'est demandé s'ils avaient tenu dans l'épreuve. Et puis il a été rassuré. Ouf, vous avez... Timothée nous rapporte au chapitre 3, il dit, il nous rapporte que vous êtes restés fermes dans la foi. Mais ils ont quand même perdu des bien-aimés. Hein. La fin du chapitre 4, on verra, c'est qu'ils ont quand même perdu des bien-aimés qui sont morts hein, dans l'épreuve et pour lesquels ils étaient préoccupés. Donc c'est à des gens qui ont traversé des moments difficiles et il dit, vous devez vous abstenir de la débauche. Dans toutes ses formes. Hein. La conversion à Christ ne peut pas effacer ce qui a été enregistré dans notre mémoire. Hein. Même si je suis sauvé, je me souviens de ce que j'ai fait. Ça reste là et c'est peut-être une bonne chose que ça reste là. Parce que comme ça, on ne sera pas trop orgueilleux. Et puis, on sera plus patient avec les autres. La mémoire reste là chez moi. Chez Dieu, il oublie. Hein. Dieu pardonne et il oublie. Mais il laisse des traces dans ma mémoire pour que je marche humblement devant lui. Heureusement qu'on ne se souvient pas de tout, hein, ça on serait accablé. Mais il en laisse assez pour qu'on ne soit pas trop fier. L'apôtre Paul lui a rappelé régulièrement, il a dit oui, avant j'étais violent, j'étais persécuteur, j'étais orgueilleux. Il se souvient de ces choses-là. Hein, donc c'est quand même... Mais la question c'est... Je ne peux pas effacer la mémoire, mais ce que je peux, c'est mettre des pensées nouvelles et des raisons nouvelles et des désirs nouveaux et prendre possession de la pensée et de la vie. Hein, parce qu'il parle du renouvellement de l'intelligence. Il nous parle d'une nouvelle vision globale. Quand je viens à Christ et comment je commence à vivre pour Dieu, eh bien, je commence à voir le monde autrement. Et j'évalue le comportement des gens autrement. Et je ne suis pas choqué par certaines choses parce que je sais que c'est dans le cœur de l'homme. Ce qui est considéré normal avant. Ben oui, avant, je pensais rien, je faisais ça, mais je pensais même pas. Hein. On pouvait mentir et puis on trouvait ça très normal. Et maintenant, je suis enfant de Dieu, je fais moins que ce que je faisais et ça me tracasse la nuit. Et je suis obligé de me tourner vers Dieu, dire Dieu, pardonne-moi. Et c'est seulement lorsque je lui demande pardon et que je dis aide-moi. C'est que là, je retrouve le sommeil, je retrouve le réconfort. Nous sommes maintenant une nouvelle création. 1 Corinthiens chapitre 6, je sais qu'on a déjà lu là dans 1 Corinthiens 6, mais je veux lire des versets un peu plus qui arrivent avant. Hein, les versets, à partir du verset 9, la deuxième partie du verset 9. Il dit, ne vous y trompez pas. C'est la deuxième partie du verset 9. Hein. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'entreront dans le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il dit, oui, bon, ce que vous étiez, on est tous d'accord. Hein, nous aussi, on était là-dedans. Mais vous étiez. Mais maintenant, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. C'est une autre vie, c'est un autre mode de vie, ça y est. Vous avez une autre vision des choses. Et donc, cette sanctification, eh bien, le corps, eh bien, il est là. Finalement, ça s'exprime au travers du corps. Hein? La débauche, c'est dans le corps, c'est pas dans la tête. Ça peut commencer dans la tête, mais ça finit dans le corps. Parce que ce que je pense, je fais. Alors, nous avons déjà vu que la sanctification n'est pas une option. Essayer de comprendre un peu le sens de cette sanctification, l'importance du corps dans la sanctification, et quatrièmement, eh bien, je parle de l'importance de posséder son corps dans la sanctification. Donc le corps est important, maintenant c'est important de le posséder. Ici, je reviens à 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 4, il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il parle de posséder son corps dans la sainteté et de l'honnêteté. Vous vous rappelez Joseph? Joseph, quand il a été vendu par ses frères, et puis il a été emporté par les Ismaélites en Égypte, vendu en esclavage, il est devenu esclave de Potiphar, il a bien travaillé chez Potiphar, Dieu l'a aidé à bien travailler, Potiphar était satisfait, il lui a fait gérant de tous ses biens. Mais Madame Potiphar, qui l'a trouvé beau, elle s'est approchée de lui. Et Joseph, il a compris, et il a refusé. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, non, j'ai trop de respect pour ton mari, je ne veux pas lui faire ça. Non, il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Pour lui, ce n'était pas une question de, oui, mais Potiphar, après, le jour où il apprendra, moi, je suis quick. Non, il n'a pas, c'est pas par crainte de ce qui pouvait arriver qu'il ne l'a pas fait. Il a dit, je ne le fais pas, c'est parce que c'est un grand péché devant Dieu. Madame Potiphar n'a rien compris, c'est qui ce Dieu-là? Et puis en plus, il était loin de la famille, hein. C'était pas papa qui allait lui reprocher quelque chose. Il croyait qu'il était mort. Mais il a dit, moi, Dieu est une réalité. Et c'est pour Dieu. Il a dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Il a vu chaque péché comme étant un péché contre Dieu. Et pas seulement contre le mari de cette dame, ni contre l'honneur de sa famille, ni contre lui. Il a dit, c'était un péché contre Dieu. Et donc il nous dit, nous devons posséder notre corps. Et donc surtout ne pas penser que nous pouvons faire ce que nous voulons avec, mais nous sommes appelés à dominer ce corps. Hein. Ce n'est pas le corps qui décide. Hein. Au début, il a dit, autrefois, vous étiez dominé par votre chair. C'est la chair qui demandait. Ce que vous aviez envie de faire, ben vous alliez le faire. Maintenant, c'est vous qui dites à la chair ce qu'elle doit faire. C'est vous qui êtes maître de votre corps. Pour posséder, eh bien, il faut contrôler. Et pour contrôler, il faut occuper. Hein? Quand une armée étrangère veut contrôler un pays, eh bien, c'est pas de loin qu'elle dit, écoutez, voilà, au téléphone, elle leur parle, elle dit, voilà ce que vous devez faire. Non. Et elle l'envahit pour pouvoir contrôler. Eh bien, nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de venir envahir mon corps et pour m'aider à dominer sur ce corps. Et pour l'admettre, il y a une nature pécheresse. Et si on ne le contrôle pas, ben, il fait ce qu'il veut. Et ben, il suffit de lire les journaux pour savoir ce qui se passe quand on laisse le corps faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, nous sommes appelés à marcher selon l'esprit, être remplis de l'esprit. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, être remplis de l'esprit? Éphésiens chapitre 5. Et au verset 15, nous dit « Prenez donc garde afin que de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et voilà, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Parce que quand on est ivre, on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus. Hein. Donc, ce n'est pas un état de chrétien. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père de toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dit, en fait, c'est pas une question de ce que tu ne fais pas, c'est une question de ce que tu fais. Tu remplis ton esprit d'autre chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu remplis tes pensées, tu remplis ta vie, tu remplis tes actions avec des choses qui sont conformes à l'Esprit de Dieu, à la pensée de Dieu. Dans Galates, il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Il dit « Mais comment est-ce que je peux arrêter de ne pas faire ?» Ben, commence à faire autre chose. Change le vocabulaire. Change la manière d'agir. Au lieu de taper, tu serres. Au lieu de prendre, tu donnes. Remplace. Dépouiller de l'ancien, revêtir le nouveau. Et c'est très intéressant. Vous vous souvenez dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, dans le sermon sur la montagne, c'est vraiment curieux ce que le Seigneur a dit là. Et même les gens du monde, ils en ont entendu parler. Vous savez, quand il parle, il dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Parce qu'il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu borne qu'aller dans la géhenne. Et puis il dit « Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. » C'est curieux qu'il ait choisi l'œil et la main. Mais d'abord, l'œil et la main, c'est le corps. Il n'est pas en train de penser des pensées, il est en train de parler de l'œil et de la main. Et il dit, et l'œil, c'est un sens, hein, la vue, la main, c'est un autre sens, c'est le toucher. Et finalement, beaucoup de ce que la chair fait qui déplaît à Dieu, c'est soit par les yeux, soit par le toucher. Et il dit, si tu veux vraiment consacrer à Dieu, commence déjà à surveiller ce que ton œil voit et ce qu'il cherche à voir et ce qui lui plaît à voir. Déjà, il dit, règle ça. Et puis le toucher. Le toucher, ça déclenche beaucoup de choses. Si on touche une personne, et où on la touche et comment on la touche, ça déclenche plein de choses dans le corps. Et ce qu'on voit, ça déclenche des choses dans le corps. Et la plupart de la débauche qui existe, ça provient de ce qu'on voit et ce qu'on touche. Et Jésus a dit, tu veux régler les choses? Tu veux contrôler? Commence à contrôler. Job a dit, moi j'ai pris un vœu que je ne poserai pas mes yeux sur. Vous savez, même dans ce Matthieu chapitre 5, là, dans ce même passage où il parle, Matthieu chapitre 5, il dit, si quelqu'un regarde à une femme et désire des choses, elle n'est même pas consciente, elle ne sait pas. Mais moi, par mon œil, je vois et j'imagine et je décris et je déshabille et je vais. Il dit, tu commets adultère? Pour Dieu, c'est pareil. C'est ton œil qui t'a donné accès à cela. Et dit, non, non. Et dit, tu surveilles ton œil. Contrôle ton œil. Contrôle ta vue. Contrôle tes mains, où ils vont. Et ce qu'ils touchent, et comment ils touchent, et ce qu'ils veulent toucher. Et ce à quoi ils cherchent à toucher. Il dit, commence déjà là. Vous voyez, quand on parle de sanctification, c'est quelque chose, le corps y est. Et c'est très important. Et ça se vit là, la sanctification se vit à ce niveau-là. Et on le comprend. Dans le monde, vous regardez ce qui se passe au monde et tout ce qui. Il y a tout pour la vue et pour le toucher. À tel point que, vous savez, avant, on avait des petites boutiques où on rentrait. Et puis on lui demandait, on dit je veux un kilo de farine, je veux ceci, je veux cela. Maintenant, on fait des grandes surfaces où on peut aller toucher et voir. Et bien sûr, on dépense plus. Parce que tu permets de toucher et tu permets de voir, et ben tu t'acquiers de la personne. Tellement, ça a un rôle important. Et les technologies, c'est nous permettre de voir ce qu'on ne pourrait pas voir autrement. Et voir dans le secret ce que normalement on aurait honte de regarder ailleurs. Tout ça, c'est là. Mais Dieu nous dit, la sanctification, il dit, commence par contrôler ton œil et commence à contrôler tes mains. Et ce sera un bon début. Alors, donc chacun est responsable pour la manière dont il regarde, dont il touche son prochain, parce que ses sens influencent les pensées et les intentions. Dans 1 Corinthiens 6, verset 13b à 15, il nous dit « Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ?» Il dit « Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec tes mains, parce qu'ils appartiennent à Dieu. » Et tu ne peux pas te servir de ce qui appartient à Dieu pour faire des choses qui lui sont contraires. J'allais voir notre sœur Alice, là, j'ai dit, écoute, prête-moi ta voiture, je vais aller voler une banque. Et elle me dit, non, pas avec ma voiture. Tu fais avec une autre, si tu veux, mais pas avec la mienne. Mais c'est pareil. Seigneur, prête-moi tes mains, parce que je veux aller... Il dit, pas avec mes mains. Pour nous donner une idée, lisez dans Daniel l'histoire de Belshazzar, qui, lui, voulait faire sa fête. Il avait invité tout le monde, il a fait une grande fête qui a duré une année. Et puis pendant la fête, tout d'un coup, il a pensé à tous les gobelets qu'ils avaient pris du temple de Jérusalem, qui avaient été consacrés, donc qui appartenaient à Dieu. Il les prend, et puis il commence à servir les vins et fait sa fête avec. Et cette nuit-là, il est mort. Dieu dit, non, tu ne prends pas ce qui est à moi pour en faire ta fête. Et Dieu prend ça sérieusement. Heureusement qu'il ne nous frappe pas chaque fois qu'on le fait. Hein, parce qu'on serait tous morts. Mais la question, c'est comme ça qu'il pense. Et je n'ai pas le droit de prendre ce corps qu'il a racheté, qui est à lui, qui en plus est le temple du Saint-Esprit. Hein? Ça ne vient pas à l'idée de quelqu'un d'aller à la cathédrale dire « Est-ce que je peux faire une boîte de nuit ce soir ?» Il dit « Non, mais vous rendez compte, c'est un lieu de culte, hein, c'est pas pour ça. » Eh bien, c'est pareil pour notre corps. Quelqu'un dit « Mais tu ne peux pas en faire ce que tu veux, ce corps. C'est un lieu de culte, c'est le temple du Saint-Esprit. Les mots ont un sens. Et ils ont un sens dans la vie de tous les jours. » Et c'est ça la vie chrétienne. Donc Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il dit, tout ça c'est dur. Non, c'est dur, c'est normal. Quand on est enfant de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Ce sont les choses qui sont normales maintenant pour la nouvelle créature. Mais bien sûr, pas normal. Il ne faut pas le demander à quelqu'un qui n'est pas sauvé de vivre cette vie-là. Il ne peut pas. Pas plus que demander à un cochon de vivre dans une salle de bain. Ça va pas, il est pas bien. Bon, il faut comprendre que naturellement, lui, comme il n'a pas d'organes qui lui permettent de suer, donc il a besoin d'être dans l'eau et tout ça pour rafraîchir son corps. Ça, il y a une raison pourquoi. Mais la question, c'est sa nature. Ben, nous aussi, maintenant, on a changé de nature. On vit notre vie. Et il nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que c'est dans votre corps que vous vivez une autre vie. Et les gens qui nous regardent, ils disent, mais toi, t'es bizarre, hein, t'es pas comme les autres. Écoute, je suis pas comme toi, c'est vrai. Non, je suis normal pour la vie que j'ai choisi de vivre. Et c'est cette vie-là que je vis. Bon, c'est pas grave s'ils se secouent la tête. La question, c'est que moi, je vis pour Dieu. J'ai demandé à Dieu de me racheter. J'ai demandé à Dieu de me sauver. Et maintenant, je lui dis, mais ne me touche pas maintenant. Hein. Laisse-moi faire ce que je veux. Non, mais ça ne va pas. Hein. Monsieur, je voudrais que vous m'embauchiez et me payiez un salaire de tous les mois. Mais ne me dites pas ce que je dois faire. Hein. Je fais ce que je veux. Il dit, monsieur, c'est pas la peine. Rien compris. C'est pareil. Dieu, je veux que tu me sauves, tu sois mon maître, tu es mon Dieu, tu es le Seigneur, j'emploie des jolis mots. Mais je fais ce que je veux. Et je fais autant que je veux. Soyons raisonnables avec Dieu. Il est raisonnable avec nous. Il ne demande pas l'impossible. Il est très patient même. Mais soyons raisonnables avec lui et essayons. Hein, et le mot, j'aime bien ce mot-là, il a dit sanctification. Ça veut dire que c'est un processus. Hein, cette structure, ça veut dire que c'est quelque chose qui se développe, qui évolue. Sanctification. Et c'est ça. Dieu ne nous demande pas en un jour, en une nuit, d'être complètement changé, parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Mais il veut que nous tendions vers cette sainteté, d'être à l'image de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole, pour... c'est à nous de nous aligner sur ta pensée. C'est à nous de vivre pour toi, si nous voulons ton salut. C'est pour ça que beaucoup te rejettent, parce qu'ils ne veulent pas ce qui vient avec. Mais Seigneur, nous qui sommes là, nous avons désiré de vivre pour toi. Aide-nous à vivre pour toi, là où nous sommes. Comme toi, tu as marché les routes de la Judée et de la Galilée, nous voulons marcher dans les voies de ce monde, mais pas comme ce monde, mais en vivant pour toi. Toi, tu n'as pas été bien reçu, et il se peut que nous ne soyons pas toujours bien reçus, mais nous ne sommes pas meilleurs que le maître, nous ne sommes que les serviteurs. Donc, Seigneur, mais aide-nous à vivre pour toi, puisque nous t'appartenons. Que nous puissions vivre à ta gloire, vivre, pas seulement nous réjouir de ce que nos âmes sont sauvées pour l'éternité, mais nous réjouir que nous avons cette possibilité de vivre pour toi chaque jour, là où nous sommes. Que ce soit au lycée, que ce soit au collège, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans le quartier, peu importe, dans la famille, que ce soit à tout moment que nous soyons à toi. Aide-nous. Merci de ce que tu es patient avec nous, tu es persévérant, mais Seigneur, nous voulons aller de progrès en progrès, comme tu l'as désiré de ces Thessaloniciens. C'est à ta gloire que nous prions et en ton nom. Amen.